Monsieur l'ambassadeur, vous avez été en 2006 conseiller d'État pour les affaires culturelles et religieuses du président de la Roumanie. Depuis un an, vous êtes ambassadeur de Roumanie près le Saint-Siège. Une question toute simple, pourquoi parlez-vous si bien le français ?
Peut-être parce que j'ai toujours aimé la culture française et la langue française. Je suis vraiment très fier d'illustrer cette tradition francophone de la Roumanie. C'est vrai que dans ma génération, j'illustre une minorité qui parle encore le français. Mais je peux vous dire qu'en Roumanie, le français est encore parlé, très apprécié. Donc, il y a aussi une raison particulière, une raison personnelle, car je fais partie d'une famille qui a des origines françaises. La famille de mon épouse est venue en Roumanie au 19e siècle, du sud de la France. Et puis j'ai fait des études, bien sûr, avec mon épouse. J'ai fait des études en France. J'ai été chercheur invité à l'école des hautes études en sciences sociales et auditeur à l'école pratique des hautes études. Et nous avons choisi le français comme langue de notre formation scientifique.
Parlez-nous de vos études. J'ai vu dans votre long parcours qu'il y a parmi les thèmes, un thème, ce sont les anges.
J'étais toujours intéressé par cette rencontre entre la philosophie et la théologie. Et j'ai trouvé que l'angélologie était ce champ de rencontre et d'expérimentation permanente, comme disait un des spécialistes en des médiévistes français, Paul Vignon.
Quand vous dites champ de rencontre, à quoi pensez-vous ?
Champ de rencontre entre plusieurs traditions philosophiques venant de l'Antiquité et la tradition théologique de l'Église. Donc ce champ de rencontre se réfère à toutes ces traditions et l'angélologie a été au Moyen-Âge en tout cas un espace privilégié de réflexion car on posait des questions sur ce qu'on ne connaissait pas par expérience. On partait des données bibliques, peut-être qu'on partait aussi des expériences spirituelles. Mais au XIIIe siècle, il y a eu un changement qu'on peut considérer comme radical. On a passé d'une angélologie comme théologie de la vie monacale à une angélologie comme champ de réflexion philosophique et théologique à la fois.
Est-ce que ce point de rencontre entre la philosophie et la théologie, cela répond à une question particulière ?
L'angélologie répond à la question du sens, parce que l'ange est un messager, l'ange est un ambassadeur. La racine, si on veut parler du point de vue étymologique de l'ange, est une racine qui se réfère justement à celui qui est envoyé en mission comme porte-parole. L'ange est la figure de l'invisible. L'ange est un messager, celui qui est issu du silence divin, et celui qui fait entendre ce silence. Je pense que la question principale de l'angélologie est la question de l'herméneutique. Comment un être qui est purement spirituel puisse devenir visible, puisse transmettre quelque chose, puisse communiquer, parce que une des questions vraiment extraordinaires dans l'angélologie médiévale a été celle de la communication entre les esprits célestes, du parler des anges et notamment du parler des anges entre eux. Si les anges ont la possibilité du secret ou si la parole d'un ange est entendue par tous les anges. Donc comment les esprits purs peuvent communiquer entre eux.
Les anges sont intemporels et pourtant nous sommes dans le temps et nous sommes nous-mêmes incarnés,
oui.
Temporels. Tout ce domaine que vous avez abordé des anges, aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à le transmettre ?
L'enjeu, en fait, de l'angélologie chrétienne, qui est une angélologie commune, même s'il y a des formes, différentes expressions, comme ontologie de l'intervalle, c'est une expression philosophique, et comme une théologie de la proximité, parce que les anges constituent ce corridor de la proximité entre Dieu et nous. Même si la médiation parfaite est réalisée, est achevée en Jésus-Christ, les anges demeurent les témoins de cette médiation parfaite et bien sûr les amis de l'époux. pour nous, les chrétiens, réfléchir sur les anges, c'est réfléchir sur la proximité et sur une relation de solidarité et de fraternité qui n'est pas une relation au niveau de l'intelligence, donc de l'esprit pur, mais c'est une relation dans l'ordre de la rédemption, donc dans l'ordre de la grâce qui nous sauve. Ils sont les garants du parcours spirituel de chaque homme. Donc ils sont envoyés pour dire toujours la vérité.
Alors justement, garant du parcours spirituel, vous avez écrit aussi un article sur un écuménisme des contemplatifs, regard orthodoxe sur l'unité des chrétiens.
J'ai pris cette expression, l'écuménisme des contemplatifs, d'un écrit du théologien orthodoxe Olivier Clément. J'ai appliqué en fait cette expression à l'histoire d'un personnage qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit du père André Scrima, qui est un personnage vraiment extraordinaire de l'orthodoxie universelle. Il est né en Roumanie, il est devenu secrétaire personnel du patriarche Athénagoras, la grande figure de l'orthodoxie qui a ouvert les voies de l'unité avec le pape Paul VI. Le père Scrima est revenu en Roumanie après la Révolution. Et j'ai eu la grande chance d'être un de ses petits disciples dans les années 90. Donc ce personnage a été aussi l'envoyé spécial du patriarche Athénagoras à la troisième session du Concile Vatican II. Puis il avait un sens de l'unité vraiment extraordinaire. Après sa mort, nous avons trouvé dans ses archives qui sont à Bucarest, très bien ordonnées, des écrits, des brouillons, des articles, des interventions qui datent de la période de la troisième session du Concile Vatican II. Et là, à cette époque-là, il était, je pense, une des voix de l'orthodoxie qui croyait vraiment dans la possibilité de l'unité. Il me disait que pour réaliser, par exemple, l'unité entre les orthodoxes et les catholiques, parce qu'on a tout en commun, on doit seulement actualiser ce patrimoine commun. Tout est actualisé.
Tout est à vivre dans le moment présent.
Et dans l'esprit. Il me disait que la découverte de soi passe toujours par la découverte de l'autre. Et que nous découvrons l'autre toujours dans le Saint-Esprit, qui est le garant de la communication interpersonnelle. Il aimait vraiment la tradition catholique et il avait fait cette expérience de la complémentarité des églises orthodoxes et catholiques. Il voyait les différences entre nos églises comme des différences de style. Et il prenait cette expression de style théologique des œuvres du théologien Hans Urs von Balthasar. Donc il parlait des styles théologiques et non pas des différences confessionnelles. Comme tous les théologiens, il avait le sens de la parole juste et il me disait « on ne peut pas demeurer dans son Égypte à soi ». C'est une phrase qui touche au cœur de l'expérience spirituelle de la recherche de l'unité. Bien sûr, il n'aimait pas cette expression « la recherche de l'unité ». Car il disait, l'Église est une. On doit faire l'expérience de l'unité qui préexiste à notre recherche.
Benoît XVI, lorsqu'il vous a accueilli il y a un an, vous a transmis cette mission ou ce message. Il serait bon d'encourager une démarche qui pourrait se situer à un double niveau, à un niveau étatique et d'autre part, en encourageant les relations harmonieuses entre les différentes communautés religieuse de votre pays. Comment vous vous situez dans cette perspective?
Il faut approfondir et renforcer les relations entre les différentes communautés religieuses en Roumanie. Là, je ferai mention de la création d'un conseil des confessions religieuses ou des cultes en Roumanie, une création qui est inspirée par le patriarche Daniel. Presque toutes les églises font partie depuis un an de ce conseil qui est un conseil consultatif, un cadre de dialogue et de réflexion commune qui me semble très important pour la vie religieuse et notamment pour la recherche de l'unité, même s'il ne s'agit pas d'un cadre de débat théologique, mais plutôt d'un cadre de réflexion pratique et de fraternité. Je dois aussi faire mention de la nouvelle loi des cultes adoptée en 2006, pour laquelle j'ai fait un plaidoyer lors de mon mandat en tant que conseiller d'État pour la culture et les religions. La loi qui reconnaît la contribution des églises et des confessions religieuses au bien commun, au bien de la société. Et l'État reconnaît cette participation et encourage cette participation des confessions à l'édification, à la construction du bien commun. Ce sont les deux côtés abordés par le discours de sa sainteté.
Est-ce qu'il y a une personnalité, un saint, qui est pour vous très important dans votre parcours?
Je me sens vraiment très, très lié à la personnalité, à la pensée de saint Augustin. Et puis, il y a un autre saint que je sens vraiment très proche et qui est comme un patron de ma vie personnelle, et saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui est le saint le plus aimé, le plus apprécié aussi par les orthodoxes. C'est une raison vraiment très personnelle, cette expérience de la simplicité, de la paix, qui est vraiment très importante dans ma vie, qui est une vocation, je dirais, inassouvie.